Jordi Blanc, qui est un ami, qui est occitaniste depuis 1968, qui est traducteur. Il a traduit, par exemple, Le Petit Prince de Saint-Exupéry en occitan. Il a traduit aussi Le Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels en occitan. Alors ça me fait beaucoup rire de lire sur Wikipédia que c'est un écrivain régionaliste. Régionaliste, quand on traduit Saint-Exupéry et Marx, on peut toujours repasser. Et il n'est pas que traducteur, il est aussi poète, il a une œuvre poétique conséquente, profonde. C'est une des grandes voix poétiques de notre siècle pour ce qui est de la langue occitane. Ensuite, il est aussi éditeur, c'est-à-dire que en 1973, il a décidé d'éditer des livres en occitan mais aussi en français, puis viendront des livres avec aussi du catalan et de l'espagnol, et il a édité des livres aussi différents que par exemple Juif et sources juives en Occitanie. Il a édité celui dont il va abondamment parler ce soir, Jean Jaurès, et bien d'autres choses. Vous trouverez ces éditions quand même assez éclectiques, assez riches dans le hall d'entrée sur la table des éditions Benteral, ce qui veut dire le vent de la terre. Alors Jean Jaurès, il a fait sa thèse de doctorat en philosophie dessus, donc il n'aborde pas comme le ferait un journaliste qui serait obligé de produire un petit papier pour son journal, pas du tout. C'est un spécialiste de Jaurès, et en s'intéressant à Jaurès, il a découvert que derrière l'icône officielle du Jean Jaurès, dont l'école et au-delà nous a parlé, eh bien, il y a un autre Jean Jaurès, un Jaurès inconnu, méconnu, et parfois même dont on ne veut absolument pas nous donner la connaissance. Et c'est de ce Jaurès-là, je pense, que, entre autres choses, il va nous parler ce soir. Et donc, il est venu à Jaurès, je pense, à cause d'abord de son origine, puisqu'il est du Tarn, mais aussi grâce au texte que Jaurès a écrit en faveur des langues de France, et notamment en faveur de l'occitan. Vous voyez qu'en son temps, il était déjà d'avant-garde, Jean Jaurès, sur le plan de la reconnaissance linguistique des langues de France. Il s'intéressait au cours de philosophie que Jaurès a donné à Albi en classe terminale, donc Jordi Blanc a édité. Et quand je dis édité, c'est un éditeur dans tous les sens du mot. Il ne s'est pas contenté de réimprimer des livres de Jaurès qui n'étaient plus en circulation. Il les a édités aussi dans un sens universitaire, c'est-à-dire que il les a étudiés de près, il les a commentés, il a mis des notes, il a fait des introductions, enfin bref, il nous a donné tous les outils qu'il fallait pour comprendre ce Jaurès-là, celui qu'on ne connaît pas forcément, surtout si on ne s'intéresse qu'à ce qu'en disent, si vous voulez, les canaux habituels, c'est-à-dire les médias et même l'école. Donc voilà, que dire de plus, Jordi Blanc, éditeur, poète, Jordi Blanc, écrivain, Jordi Blanc, traducteur, et Jordi Blanc, conférencier, pour notre plaisir ce soir. Merci, bonne soirée.
Merci, Éric Spahl, ami et vieux compagnon de lutte occitane depuis une quarantaine d'années. Merci à l'association Histoire et Tradition Carbonaise, merci à l'association Pupin-Vol pour la préparation et l'organisation de cette conférence qui me donne l'occasion de parler de Jaurès ici à Carbone, mais à partir de ce que je peux amener de non seulement de ma connaissance, mais de mon expérience, de ma sensibilité par rapport à Jaurès. Quelques mots avant de rentrer dans le sujet, Jaurès et la paix, qui est bien d'actualité au aujourd'hui autant que ce qu'il était avant 1914. Alors pourquoi je me suis intéressé à Jaurès? Pourquoi Jaurès plutôt qu'autre chose, dirait le camarade Leibniz. Mais d'abord parce que j'habite dans la... Je suis né, j'habite dans la seconde circonscription électorale du Tarn, seconde circonscription d'Albi, dans laquelle Albi ne figurait pas d'ailleurs, qui était au nord d'Albi, et qui a été celle de Jaurès. Circonscription qui comprenait une ville ouvrière, Clermont, et autour, quatre cantons ruraux, celui de Monestier, celui de Pampelonne, celui de Valence et de Valdériès, dans lesquels Jaurès n'avait pas forcément la majorité. Et puis, j'ai enseigné au lycée de Clermont pendant plusieurs années, et la mémoire du Clermontais par rapport à Jaurès n'est pas rien. J'ai été élève aussi au lycée La Pérouse, la vie, dans lequel Jaurès a enseigné et a prononcé son cours de philosophie. Alors, je me suis intéressé d'abord à Jaurès par rapport à ses origines. Je lisais des biographies de Jaurès, souvent fort intéressantes, mais qui traitaient surtout le Jaurès de la Chambre des députés, le Jaurès des congrès internationaux, et j'avais l'impression que la dimension régionale de Jaurès était un peu laissée de côté. Or, il a participé à de grands conflits qui n'ont pas été seulement des conflits locaux, la grande grève des mineurs de Clermont de 1892, qui est à l'origine de son élection comme socialiste, et la grève des verriers de Clermont en 1895, qui a abouti à la fondation de la verrerie ouvrière d'Albi. Et puis, il faut... et d'autres grandes grèves comme ça, celle de Mazamé et celle de Rollier en 1909-1910, qui ont duré plusieurs mois. Et puis, il suffit de rappeler l'importance et la durée de sa collaboration à la Dépêche depuis 1887 jusqu'au 30 juillet 1914, la veille de son assassinat. Un article par semaine, 1300 et quelques articles. Plus je lisais Jaurès, et plus je lisais sur Jaurès, moins je m'y reconnaissais. Il y avait les écrits de Jaurès d'un côté, et puis ce qu'on pouvait dire, écrire sur Jaurès. Et je m'apercevais que dans tous les textes de Jaurès, les discours, les articles, même les plus circonstanciels, il y avait autre chose que l'exposition, la défense d'une ligne politique. Il y avait un horizon philosophique. Il y avait ce qu'on peut appeler, d'un terme peut-être un peu savant, une métapolitique de Jaurès. Pour lui, il y a quelque chose avant la politique, il y a quelque chose après la politique. La politique ne tient pas lieu de tout. Et, les spécialistes de Jaurès connaissaient l'existence de son cours de philosophie qu'il a prononcé la seconde année de son enseignement à Albi, au sortir de l'école normale supérieure, en 1882-1883. Ce cours restait inédit au fond d'une armoire du lycée Ascol. Mais c'était un document fondamental, 11 heures de cours par semaine devant 5 élèves, on mesure, chers collègues, les progrès de l'enseignement. On est passé de l'enseignement presque en toute forme de cours particulier à l'enseignement en batterie d'aujourd'hui. Puis, j'ai réédité sa thèse principale. Alors évidemment, Jaurès a été philosophe, ce qui est rappelé un peu partout, mais de manière uniquement anecdotique. On me dit, il est rentré premier à l'école normale supérieure, devant Bergson, qui était à la même promotion. Il a été un brillant agrégé philosophie. Il a enseigné 2 ans à Albi, 5 ans et quelques à la faculté des lettres de Toulouse. Mais, y compris cette année de célébration jaurésienne, si l'année, dans tous les numéros spéciaux de revues qui sont parus, dans les livres qui sont parus, rien sur sa philosophie, à part le côté anecdotique et chronologique. On ne rentre pas dedans. Alors, ça permet de comprendre pourquoi Jaurès, grand défenseur de la laïcité, anticlérical, sans être de l'anticléricalisme primaire, a une pensée métaphysique qui est fondamentalement religieuse. Cette œuvre, c'est une théodicée. Dieu y est la notion centrale, tout remonte à Dieu et tout descend à Dieu. Ce qui est assez insupportable pour quelques esprits trop étroitement laïcistes. Par exemple, c'est un commentaire géant de 350 pages sur une formule de Saint Paul, in Deo movemus, vivimus et sumus. En Dieu, nous nous mouvons, nous vivons et nous sommes. Ce qui suffit à contredire une affirmation souvent répandue qui est partout, que Jaurès est panthéiste. Si tout est en Dieu, si nous sommes en Dieu, c'est que le monde n'égale pas Dieu et Dieu n'égale pas le monde. Il y a un contenu et un contenant. Et puis, bon, alors qu'on a essayé de dire que ce Dieu ne savait pas trop ce que c'était, la conscience, l'histoire, le grand architecte de l'univers, Jaurès dit à la première personne, dans ma pauvre tête fatiguée, il y a Dieu. Qu'est-ce que c'est, sinon, le Dieu de compassion? Voilà. Alors, mon premier but est de faire reconnaître Jaurès en tant que philosophe à part entière et comme grand philosophe, comme a dit mon autre ami Robert Redeker, qui nous fait l'honneur d'assister à cette conférence. Mais ce n'est pas de même encore qu'on trouvera Jaurès à le dictionnaire de philosophie ou qu'il sera au programme de l'agrégation. Mon second but est de montrer que ce qui permet de comprendre, d'éclairer profondément la politique de Jaurès, son action, ce n'est pas je ne sais quel marxisme sommaire sur lequel on essaie de le rabattre, mais c'est sa pensée philosophique. Lorsqu'il abandonne la faculté des lettres de Toulouse pour siéger à la Chambre des députés, il ne renie pas la philosophie, pour lui c'est l'accomplissement de la philosophie. Parce qu'il ne sépare jamais, c'est le côté qui me fascine le plus chez lui, la pensée et l'action. Une pensée qui ne peut pas se traduire en action, se frotter à l'épreuve de la réalité, n'est pas une pensée digne de ce nom. Alors, là c'est le thème de ce troisième volume qui fait le lien donc entre sa pensée métaphysique et son action politique, dont je m'aperçois de plus en plus qu'elle est finalement aussi méconnue que sa pensée philosophique, malgré des citations sommaires tirées de leur contexte que l'on peut faire. Alors, ben j'espère que sur les liens de sa philosophie et de sa politique, cette conférence en sera l'illustration. En sera l'illustration
sur un seul thème, la paix. On pourrait en prendre d'autres chez Jaurès, mais j'espère vous montrer que chez Jaurès, la paix n'est pas un thème, n'est pas une valeur parmi d'autres. C'est vraiment l'idéal, la valeur suprême chez Jaurès et dans tous les domaines. Alors, évidemment, quand on s'attaque à Jaurès, on ne déboule pas sur un terrain vierge. Hein, il y a des tonnes d'écrits sur Jaurès. Alors, nous sommes donc obligés de partir de ce que l'on a dit, on a affirmé de lui sur le thème de la paix. Alors, c'est assez simple. Jaurès s'intéresserait surtout à la lutte des classes, aux réformes réalisables à l'intérieur de la France contemporaine, et ce ne serait qu'à partir de 1904 jusqu'à 1914, c'est-à-dire les 10 dernières années de sa vie, que le thème de la paix deviendrait chez lui le thème central, la préoccupation centrale. Alors, c'est une thèse marxiste ou marxisante. Voilà pourquoi. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est la lutte des classes. C'est une des premières phrases du manifeste communiste de Marx. C'est-à-dire que l'on peut tout ramener à la lutte des classes, y compris la guerre, la paix. Mais le combat central, dans une perspective marxiste, c'est la lutte de classes. Une fois que la société future sans classe sera instaurée, ben, il n'y aura plus de guerre. Une fois qu'elle sera instaurée, le problème des femmes n'existera pas. Ça sera résolu. Une fois qu'elle sera instaurée, le cléricalisme disparaîtra. La religion aussi. Donc, dans une perspective marxiste, et je pourrais développer, prendre des exemples concernant les marxistes contemporains de Jaurès, lutter contre la guerre, c'est une déviation. Ce n'est pas le combat principal. De même que se battre pour les femmes, ça n'est pas le combat principal. De même que lutter contre le clientélisme, ce n'est pas le combat principal. Hein? Donc, c'est tardivement qu'on reconnaît que Jaurès, face aux menaces internationales, se consacre prioritairement à la lutte pour la paix. Et il y a des arguments pour cette thèse que nous allons passer en revue. En effet, 1904, au niveau international, c'est une année charnière. Le 8 février 1904 se déclenche la guerre russo-japonaise, qui ne se terminera qu'un an et demi après, le 5 septembre 1905. Conflit à propos de la Mandchourie, que convoite et qu'occupe le Japon, mais que convoite aussi l'Empire tsariste. C'est déjà le prélude, enfin la première forme d'une guerre industrielle avec des massacres de masse. Et cela n'échappe pas évidemment à Jaurès. Et puis, ça aura des conséquences célèbres et capitales. La première révolution russe en 1905, au début de 1905, puisque les Russes sont battus, l'armée tsariste n'est pas assez organisée et ça provoque cette première révolution qui sera un prélude de 1917. Excusez-moi, je ne vois pas trop. Voilà. Au fond, le soldat japonais est vainqueur et au premier plan, les cadavres de Russes entassés. 1905, c'est aussi le début de la crise marocaine. Et il y a pratiquement deux volumes de Jaurès de discours sur le Maroc. Le Maroc, il y a un sultan, un royaume, l'Empire chérifien, et il est convoité par les grandes puissances européennes, à savoir l'Allemagne, l'Espagne et la France. Et Jaurès proteste contre les atrocités de la colonisation française au Maroc. Alors, grande crise, on est passé déjà à deux doigts de la Première Guerre mondiale. Le 31 mars 1905, l'empereur Guillaume II, qui fait une croisière en Méditerranée, débarque à Tanger et est reçu par l'angle du sultan, manifestant ainsi l'intérêt de l'Allemagne pour le Maroc. 1907, anarchie marocaine, rivalité pour le trône marocain, conférence d'Algésiras, qui n'accorde pas à la France le droit de pénétrer l'intérieur de l'Empire. Mais le gouvernement français outrepasse cette résolution de la conférence d'Algésiras et fait débarquer un corps expéditionnaire qui occupe Fès. Bon, le prétexte, il est toujours en vigueur aujourd'hui, c'est la protection des ressortissants français. Le 1er juillet 1911, l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, fait mouiller un navire de guerre allemand, la canonnière Le Panther, en rade la Galire. Et là, la guerre a été évitée de très peu, grâce à l'attitude très ferme de l'Angleterre notamment. Alors, pour se mettre un peu dans l'ambiance de l'époque, voilà le petit journal, l'équivalent de Paris Match aujourd'hui, quoi. Comment le petit journal présente l'expédition marocaine. Marianne, avec la corne d'abondance, répandant des pièces d'or sur les Marocains qui, à quatre pattes, ramassent ce qu'ils peuvent. Alors, voilà la réalité. Ce sont des cartes postales que les soldats français devaient envoyer à leur famille. Et on les voit posant devant des cadavres de Marocains, devant leur tableau de chasse. Le passage des Français à Casablanca. Bon, sans commenter. Alors Jaurès est toujours à la tribune, dans la dépêche, dans l'humanité, à protester contre les atrocités de cette colonisation. En 1908-1909, c'est le début de la crise bosniaque. C'est l'Empire d'Autriche-Hongrie qui annexe la Bosnie, et évidemment qui soulève ainsi l'opposition de la Serbie. Alors voilà une caricature d'un journal anglais qui montre les grandes puissances convoitant les Balkans. En 1912-1913, ce sont les deux guerres balkaniques. Sur la première, vous pouvez voir l'Empire ottoman qui possédait toute la Macédoine. Et les puissances qualifiées à l'époque de chrétiennes, c'est-à-dire la Serbie, la Grèce et la Bulgarie, profitent des craquements, des faiblesses qu'elles ressentent du côté de l'Empire ottoman pour entrer en guerre. Guerre de 3 semaines à peine, l'Empire ottoman est battu. Mais il y a une seconde guerre balkanique parce que la Bulgarie trouve qu'elle n'a pas eu un assez gros morceau. Et donc, il y a une seconde guerre qui est déclenchée. Mais, bon, là aussi, l'Empire ottoman est obligé de reculer. Et ça entraîne un partage de la Macédoine entre Bulgares, Serbes et Grecs. Voilà la préscience de Jaurès. Les événements des Balkans donnent une idée de ce que serait la guerre universelle. Dans une guerre qui a duré à peine un mois, un tiers de l'effectif des armées a été détruit. 150 000 hommes sur 500 000 ont été mis hors de combat. C'est une proportion sans précédent dans les guerres modernes. C'est la reproduction, en période civilisée, de ces grandes destructions des temps barbares, où des armées entières, des peuples entiers disparaissaient. Et l'odeur de ce charnier commence à se répandre sur l'Europe. 1912. Alors, un discours formidable de Jaurès, qui est souvent cité et de manière très juste, c'est un congrès socialiste international extraordinaire qui se réunit à Bâle en Suisse et les autorités religieuses autorisent la tenue de ce congrès dans la cathédrale de Bâle. Et sur la cloche, il y a une inscription qui vient d'un poème de Schiller, « Vivos roco, mortuos flango, fulgura frango ». Ce qui veut dire notamment j'appelle les vivants, je plains les morts, je brise la foudre. Et Jaurès le ressaisit en disant ceci, Vivos voco, j'appelle les vivants pour qu'ils se défendent contre le monstre qui paraît à l'horizon. Mortuos flango, je pleure les morts innombrables couchés là-bas, vers l'Orient, et dont la puanteur arrive jusqu'à nous comme un remords. Tu lui rends un mot. Je brise les foudres de la guerre qui menacent dans les nuées. Et s'il ne suffit pas qu'il y ait, ici ou là, dispersée et hésitante, une bonne volonté pour la lutte, il nous faut l'unité de volonté et d'action du prolétariat militant et organisé. Les cloches de Bâle, ça, c'est le titre d'un roman d'Aram. Et puis, autre discours célèbre, celui de 1913, le mai 1913, auprès de Saint-Gervais, qui n'est pas encore bâti complètement, à la lisière de Paris, un discours contre la loi des 3 ans. Parce que la Chambre venait de voter une loi pour mettre les armées françaises à la hauteur numérique des armées allemandes, portant le service militaire de 2 ans à 3 ans. Et Jaurès, qui est pacifiste, mais qui n'est pas antimilitariste, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer cette nuance, a toujours lutté contre cette loi. Il est contre ce qu'il appelle l'encavernement. Il est contre l'homme des casernes. Il est partisan de service militaire de 6 mois avec des rappels, les armes à la maison et des régiments régionaux sur le modèle des armées de l'an 2, de la Révolution française et des cantons suisses. Et il est d'autant moins antimilitariste qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'armée nouvelle en 1910 où il expose ses conceptions militaires. Voilà. Alors, ce que je voudrais essayer de montrer ce soir, c'est que l'action de Jaurès pour la paix ne se limite pas à 1904-1914. Cette action prend naissance bien avant. Et au niveau extérieur comme au niveau intérieur. Alors, ça ne s'est jamais dit, surtout au niveau intérieur. Que son idéal dominant, il y a lutte de classe, d'accord, c'est la paix. Il faut que les classes luttent, mais sans violence. Alors, on va prendre ça au niveau extérieur, en politique extérieure. Jaurès est né en 1859, c'est-à-dire que pendant la guerre de 70, il avait 11 ans. Et déjà, il s'intéressait aux nouvelles de la guerre. Et comment ne pouvait-il pas s'y intéresser? Son oncle Benjamin était amiral, et pendant la guerre de 70, il a été général de l'armée de la Loire. Il y a plein de militaires dans la famille de Jaurès. Et la conséquence de la défaite française, c'est la proclamation en 1871 de l'Empire allemand, c'était que des principautés, ou dans la galerie des glaces de Versailles, en présence de Guillaume II et de Bismarck. Une cruelle humiliation pour la France, qui va dominer toute la politique française extérieure jusqu'en 1914. Alors, voilà, on peut se rendre compte de la puissance et de la menace que représentait l'Allemagne. Vous voyez en bas à gauche l'Alsace-Lorraine annexée, et à droite en haut, ça va jusqu'à la Lituanie. Voilà la photo d'une manœuvre militaire allemande en Alsace, sous l'œil de Guillaume II en 1908. Alors, c'est l'idée de revanche qui domine la ligne bleue des Vosges. Et avec tout le bourrage du crâne qui s'ensuit, notamment au travers de l'école primaire et des livres scolaires. En voilà une illustration. Le maître montre à l'élève les provinces perdues, et bon, pas question de rigoler, il faut au contraire se préparer à la revanche. Et Jaurès est contre le fait de ramener toute la politique extérieure française à la reconquête des provinces perdues, reconquête qui ne pourrait se faire que par la guerre. Non, je le dis nettement, nous n'avons pas le droit de maintenir la question de l'Alsace-Lorraine comme un principe permanent de défiance et de malaise dans le monde, 1902. La vraie revanche pour les deux peuples sera de développer la liberté et d'accomplir la démocratie. C'est dans ce mouvement européen de démocratie et de liberté, c'est dans cette entente franco-allemande de démocratie et de liberté que les Alsaciens-Lorrains trouveront les garanties nécessaires du droit. Bon, on mesure l'avance de Jaurès. Pour lui, la démocratie, c'est le compromis, pas la compromission. Mais chacune des parties doit faire des concessions. Et voilà le plan qu'il propose pour l'Alsace-Lorraine, qu'il reprend d'ailleurs à un curé d'Alsace-Lorraine qui a été mis en tôle par les Allemands, et qui est le suivant. La France va accepter que l'Alsace-Lorraine continue d'appartenir au Reich allemand. Mais le Reich allemand va accorder l'autonomie à l'Alsace-Lorraine. Et une autonomie sous forme de république à l'intérieur du Reich. Il y aura deux républiques autonomes d'Alsace-Lorraine à l'intérieur du Reich. Et évidemment, comme il le disait dans la citation précédente, c'est l'Europe qui peut être une solution aux minorités européennes. Le jour où un pacte décisif de paix sera conclu entre les peuples européens, le jour où ils seront donnés, où ils se seront donnés à eux-mêmes par le désarmement simultané, vous m'entendez bien, pourquoi le désarmement simultané vaut mandat des biens, parce que les adversaires de Jaurès affirment, oui, Jaurès est pour le désarmement, donc il va livrer la France pieds et poings liés à l'Allemagne. Alors il insiste bien, le désarmement simultané vaut mandat des biens, un gage décisif de sécurité réciproque. Ce jour-là, tous les groupes humains, de la Finlande à l'Irlande, de la Pologne à l'Alsace, ce sont les nationalités qui n'ont pas encore leur indépendance, auront plus de force pour revendiquer leurs droits et pour retrouver le libre jeu de leurs affinités historiques et morales. Ils ne se heurteront plus à la surveillance inquiète et jalouse des nations qui les ont incorporées violemment. Il reprend l'idée de Saint-Simon, le premier des socialistes, au début du XIXe siècle, d'un Parlement européen. L'idée hugolienne des États-Unis d'Europe. Et il propose même un sol fédéral européen, une union douanière européenne. Et même, il ne sait pas en garde, une patrie sociale européenne. Une patrie sociale européenne. Et il est déjà conscient que légiférer à l'intérieur d'un seul pays, c'est insuffisant. Ça ne tient plus la route. Vous voyez bien, messieurs, que le tissu de la vie économique internationale est plus serré tous les jours. Vous voyez bien qu'il nous est impossible de donner à chacune de nos législations que nous préparons un caractère exclusivement national. Hier, c'était la conférence sur le sucre. Il prend évidemment les questions débattues à l'époque. Avant-hier, c'était une première conférence sur la limitation du travail pour les femmes et pour les enfants. Demain, ce sera un code de protection du travail s'étendant dans tous les pays sur la totalité des travailleurs européens. Ce sera le code de l'assurance sociale, des accidents, le code de l'invalidité et de la vieillesse. Rien de cela n'est encore réalisé à l'époque, protégeant dans toute l'Europe les travailleurs de tous les pays et créant ainsi une sorte de patrie sociale européenne pour tous les travailleurs. J'entends personne actuellement reprendre ça, se réclamer de Jaurès. Et il va au-delà, non seulement il est conscient des relations, des interférences entre pays européens, mais des mêmes relations et interférences au niveau mondial. La prémonition de la mondialisation, de la globalisation, vous l'avez là. Toutes les nations vont être plongées de plus en plus dans une sorte d'internationalisme économique. De plus en plus, leur vie intérieure, leur mode de production et de vente seront réglés par des accords internationaux. 1902, hein, oui, on n'est pas en 1904. Voilà, il y a une question récurrente qui le préoccupe, et pas seulement lui, c'est celle des alliances. Alors, pour lui, les alliances, en principe, ne sont pas forcément négatives. Elles peuvent être défensives, elles regroupent des pays, plutôt que chacun aille à la bataille de son côté et crée une zone de turbulence en Europe. Il y a la triple alliance, qui fonctionnera pendant la guerre de 14, Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie. En face de cela, et très tôt, se noue l'alliance de la France républicaine et de la Russie tsariste, que Jaurès voit maintenant ses bon oeil, mais ça ne dure pas longtemps. Il y a une incompatibilité de régime et la France risque de se faire entraîner dans une guerre par la Russie. Et à cette alliance vient se joindre l'Angleterre. Alors voilà quelques courtes citation qui montre sa détermination. Nous ne voulons de la guerre à aucun prix et sous aucun prétexte. Et alors il y a évidemment chez lui une sorte de prophétie de la paix. Mais prophétie qui ne constitue pas des paroles en l'air. Parce qu'il se bat pour. À la Chambre des députés, dans les journaux, dans les congrès internationaux, et il va y laisser sa vie.
Oui, la paix est maintenant possible entre les grandes nations de l'Europe, et l'acte international par excellence, le devoir suprême du prolétariat, est de s'employer tous les jours à faire de cette possibilité une certitude.
Il ne suffit pas que la paix soit.
Il faut encore que le monde en ait une telle assurance qu'il en puisse connaître toutes les joies et développer tous les bienfaits. Et c'est une entreprise hardie que de fonder dans une partie de l'humanité la paix inébranlable, la paix certaine.
Voilà, autre intervention décisive de Jaurès en politique extérieure, le massacre des Arméniens, je pourrais dire le premier massacre des Arméniens, puisque c'est 1894-96, on est 10 ans avant 1904. Le sultan turc Abdul Hamid II, que vous voyez là sur une caricature, entame un massacre contre les Arméniens avec l'aide des Kurdes. Enfin bon, je passe sur les connotations actuelles qu'on pourrait y retrouver. Et Jaurès monte à la tribune. Alors, vous allez voir dans ce texte la force de sa dénonciation. Dans les rapports officiels des consuls de l'Europe, parce que Jaurès est quelqu'un qui travaille énormément, qui va aux documents, aux journaux, aux rapports, etc. J'ai lu le détail des brutalités atroces commises de concert par les Kurdes et par la soldatesque du sultan. Lorsque j'ai vu les premières rencontres sanglantes de ces nomades dans les ravins et les bois, avec les pâtres et les laboureurs de l'Arménie, la fureur soudaine des Kurdes et la guerre d'extermination. On est quelques années avant le génocide de 1915 que nous commémorons l'an prochain. Et la guerre d'extermination qui a commencé. Et l'émigration des familles arméniennes partant de leur maison détruite par l'incendie. Et les vieillards portés sur les épaules, puis abandonnés en chemin et massacrés. Et les femmes et les mères affolées, mettant les mains sur la bouche de leurs enfants pour n'être pas trahis par leurs cris, par leur fuite sous bois. Et les enfants cachés, tapis sous les pierres, dans les racines des arbres, et égorgés par centaines. Et les femmes enceintes éventrées, et leurs fœtus embrochés et promenés au bout d'une baïonnette. Et les filles distribuées entre les soldats turcs et les nomades kurdes, et violées, jusqu'à ce que les soldats, les ayant épuisés d'outrage, les fusillant enfin en un exercice monstrueux de sadisme avec des balles partant du bas-ventre et passant au crâne, le meurtre s'essayant à la forme du viol. Et le soir, auprès des tentes où les nomades se livraient à la même orgie, les grandes fosses creusées pour tous ces cadavres, et les Arméniens fous de douleur qui s'y précipitaient vivants, et les prêtres décapités, et leurs têtes ignominieusement placées entre leurs cuisses, et toute cette population se réfugiant sur les hauts plateaux. Alors, c'est aussi, en 1898, la guerre hispano-américaine. L'Espagne avait toujours ses colonies aux Antilles, notamment Cuba, et d'autres, et les Philippines. Et alors c'est une guerre qui se déroule sur deux fronts, dans les Antilles et aux Philippines. Et l'importance de cette guerre, au cours de laquelle l'Espagne est rapidement battue, et ça amorce le déclin espagnol, 1898, hein, c'est une année charnière dans l'histoire de l'Espagne. Ça n'échappe pas, ce qui n'échappe pas à Jaurès, c'est la montée en puissance des États-Unis. On voit quelle est l'énorme puissance capitaliste qui s'ébranle pour des destins nouveaux, pour des ambitions plus vastes encore. Et comme en même temps, le Japon étale sa production, comme la Chine est envahie par le capitalisme européen, comme la Russie entre à toute vapeur dans le système industriel de l'Europe occidentale, comme la Russie et l'Allemagne accroissent leur marine, comme l'Angleterre adopte un plan gigantesque de construction navale, nous pouvons être assurés que le monde entre dans une période de tension capitaliste et militaire, peut-être sans précédent, 1898. Alors, le plus nouveau, c'est qu'on retrouve le même idéal de paix en politique intérieure. Alors, là aussi, je suis obligé d'aller à l'encontre de l'historiographie officielle sur Jaurès. On parle beaucoup à propos de Jaurès du fait qu'au début c'était un républicain centriste assez modéré et que progressivement, mais très lentement, il serait passé au socialisme. Donc on lui reproche, dans ses premières années de député, d'être tout à fait tiède, modéré en matière de socialisme. De ne pas être sur la ligne sur laquelle on voudrait qu'il soit. Et je crois que cette interprétation est fausse. Elle est démentie, d'abord, par tous les articles, toutes les interventions de Jaurès au cours de sa première législature, 1885-1889, toutes sont d'inspiration socialiste. Mais Jaurès ne se joignait pas aux 6 ou 7 socialistes déclarés. Il avait horreur des sectes et il avait horreur de la violence. C'était une forme tout à fait primitive, rudimentaire du socialisme à laquelle il ne voulait pas se joindre. Et s'il est philosophe, il est aussi politique. Et il savait que pour faire passer des réformes sur les retraites, sur la sécurité dans les mines, sur la réduction du temps de travail, on était obligé de compter sur les républicains, sur les simples républicains. Et tous les républicains n'étaient pas sur la même ligne. Il y a des républicains appelés modérés, qui sont très conservateurs, mais il y a aussi des républicains de progrès. Et alors, il essayait de ne pas les heurter. Et on est étonné, on les en de lettres, par certaines de ces prises de position face aux conflits sociaux de l'époque. Par exemple, 1886, jusqu'à l'universal, les mineurs de Decazeville entament une grande grève. C'est vraiment l'exploitation, la misère, et au cours d'une manifestation, ils pourchassent le sous-directeur de la mine qui s'appelle Vatrin, qui se réfugie au premier étage, mais les mineurs montent et il faut qu'on sache par la fenêtre. Et il y a un débat à la Chambre des députés, provoqué par les 6 ou 7 députés socialistes, qui déposent une motion. Jaurès refuse de s'associer parce qu'il refuse l'emploi de la violence pour satisfaire les revendications sociales. Je fus détourné aussi de m'inscrire à ce petit groupe par la choquante et inutile violence du discours de Bali, c'était un député mineur du Nord, sur les événements de Decazeville. L'organisation sociale de la propriété, dans une république, ne me paraissait pas avoir pour prélude nécessaire un déchaînement de haine sauvage et l'apologie des vatrinales. Pareil pour la fusillade de Fourmies. Le 1er mai 1891, un des premiers mai qui sont célébrés, à Fourmies, ville du Nord, une manifestation pacifique se heurte à l'armée qui tire dessus, et il y a 9 morts, une soixantaine de blessés. Et là, Jaurès, qui est alors conseiller municipal de Toulouse, adjoint au maire, refuse de s'associer à une motion de protestation contre le gouvernement. Alors, bon, je pourrais prendre d'autres exemples aussi, mais il y a quelque chose de très éloquent. Oui, avant de venir là, quand même, quelques mots sur les grèves et l'arbitrage. Les adversaires conservateurs de Jaurès le font passer pour un fauteur de grève. C'est lui qui soufflerait sur tous les conflits, qui pousserait les ouvriers à la grève. Bon, c'est entièrement faux. Jaurès n'est pas contre la grève dans l'absolu, mais il sait très bien, à l'époque où il n'y a aucune protection sociale, aucune solidarité organisée comme aujourd'hui, ce que des mois de grève, comme à Mazamet ou à Grouillet, peuvent entraîner pour les ouvriers. Et il essaie de les freiner, de les calmer, enfin en tout cas de les mettre en garde face aux risques encourus. C'est notamment le cas pour la verrerie ouvrière à Carmont. Les ouvriers partent en grève tout de suite, Jaurès les met en garde. Le patron a un stock de bouteilles, il peut fermer l'usine autant qu'il veut. Et finalement, quand les ouvriers décident de maintenir la grève, bon, Jaurès se met avec eux et travaille à l'élaboration du projet de coopérative verrière. Et il est souvent médiateur dans les conflits. Il est par exemple en 91 à Toulouse où il est conseiller municipal, chargé de l'éducation. Mais on le choisit comme médiateur dans un conflit social, opposant les conducteurs de tramway hippomobile à leur patron. Il travaille 16 heures par jour. Il demande de la réduction de la journée de travail à 12 heures. Bon. Le patron semble accepter, il ne tient pas ses promesses, la grève repart, il y a des destructions de vitrines, de kiosques, etc. Et Jaurès est accepté par les parts comme médiateur. De même dans la grève de Grouillet. C'est lui le médiateur entre le patron et les ouvriers. Bon, il ne réussira pas d'ailleurs, cette fois-là. Alors, idée très importante, et vous allez voir que cette idée au niveau intérieur est en relation étroite avec ce qui s'élabore au niveau extérieur, c'est l'idée d'un arbitrage dans les conflits de travail. Alors l'arbitrage, ça fait le sujet au niveau international de deux conférences, arbitrage entre nations, à La Haye en 1889, et seconde conférence, toujours à La Haye, en 1907. Alors, au niveau intérieur, il y a une loi qui a été votée à la Chambre en 1892 sur l'arbitrage dans les conflits du travail. Et c'est tout à fait la position de Jaurès. Autre idée que je n'ai jamais vue relever nulle part. C'est l'idée de référendum ouvrier. Parce que l'autre souci de Jaurès, d'abord c'est d'éviter les violences qu'on a fourmis entre l'armée et les travailleurs, mais c'est aussi d'éviter les violences entre travailleurs. Alors qu'est-ce qu'il propose? En cas de grève, un référendum ouvrier qui aurait lieu entre les ouvriers. Et si la majorité est pour, il y aurait effectivement une grève. Parce qu'il y a eu souvent des bagarres, des violences entre grévistes et non-grévistes. C'est ce qu'il propose, par exemple, lors de la grève de Monceau-les-Mines en 1893. Alors, la préoccupation de Jaurès pour la paix, eh bien, on la retrouve dans tous ses discours de distribution des prix. Comme ancien professeur ou comme député, il est souvent invité dans les lycées. Alors à lui, il en a fait trois, en 1883, un beau discours sur la bienveillance, c'est la valeur suprême peut-être pour Jaurès. 1888, il y revient, et voilà. Donc c'est très tôt. Et il avertit les jeunes qui sont face à lui sur ce qui les attend. Vous devez, pour ne pas perdre votre force et votre vie, travailler dans notre pays à l'organisation de la fraternité humaine. Il se peut que vous soyez sur le chemin de la paix définitive et que la fraternité des citoyens prépare, malgré qu'on en ait, la fraternité des peuples. La cloche vous appelle dans le lointain et vous ne pouvez savoir si elle sonne pour vous le tocsin du combat ou la grande fête de l'humanité réconciliée. Vous marcherez en attendant, également prêt aux œuvres de paix et aux œuvres de guerre. Autre discours, 4 ans après, au grand lycée de Toulouse, le lycée Fermat actuellement, où les perspectives sont plus inquiétantes, plus menaçantes. Vous êtes saisi et façonné par la guerre. Vous ne savez pas, nul ne sait, si c'est la guerre qui tranchera les problèmes. Les peuples s'observent et hésitent. Ils sentent tous, avec une précision que n'a point connue le passé, une responsabilité terrible pèse sur eux. Et si la crise suprême éclate, ce ne sera pas l'élan chevaleresque et étourdi des volontés individuelles ou même des passions nationales, mais la puissance sombre, et pour ainsi dire, la nuée du destin, sans autre éclair que la grandeur du sacrifice. Voilà une autre citation qui est un peu longue, qui est tirée du troisième discours de distribution des prix à Albi, celui de 1903, et qui a été baptisé « Discours à la jeunesse ». C'est celui dans lequel se trouve la fameuse tirade, la belle tirade sur le courage. Alors, paix internationale et paix sociale. On peut consolider cette vision de manière relativement facile. Parce que, pour Jaurès, les deux sont liés. D'un côté, les guerres internationales sont la conséquence des luttes intestines dans chaque pays, des rivalités, de la concurrence, de la lutte des classes dans chaque pays. Mais de l'autre, les réformes sociales à l'intérieur d'un pays dépendent de l'établissement d'une paix internationale. Les causes de la guerre. Alors, je vais m'attarder un peu sur une citation parce qu'elle est célèbre, constamment répétée, mais elle est fausse. C'est la fameuse citation « Le capitalisme porte à lui la guerre comme la nuée dormante porte l'orage ». C'est faux. C'est pas ce qu'il dit. Le 7 mars 1895, il s'adresse à la Chambre, au président du Conseil, ministre des Finances, et depuis, et il dit toujours, votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. C'est pas le capitalisme, c'est votre société. Or, quelle est la société de 1895? Certes, il y a le capitalisme à l'œuvre, mais on est aussi en république, en démocratie. Il y a l'école libre, obligatoire, laïque. Il y a les élections. Et cette société est pour Jaurès un mélange dans lequel il y a du bon et il y a du mauvais. Et d'ailleurs, pour lui, toute société est un mélange. Alors, ce n'est pas un mélange au sens vulgaire, ce n'est pas un mélange au sens chimique. Seuls les philosophes peuvent le comprendre. C'est un mélange au sens platonicien, pour Jaurès, et comme pour Platon, il y a le monde des idées, et le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde du mélange. Toute société est un mélange, y compris le capitalisme lui-même est un mélange. Donc le capitalisme est loin d'être une forme de société de production uniquement négative. Voilà. Peut-on trouver une plus belle preuve? À aucun moment, le capitalisme n'est une pure forme de résistance, une force de réaction sans mélange. Tout à la fois, par une action indivisible, il abaisse et il élève, il asservit et il émancipe. Et si la force brutale intervient à son service, l'armée peut tirer, elle ne le constitue pas, et ce n'est pas elle, au fond, qui le soutient. Pour Jaurès, il n'y a pas de capitalisme sans adhésion. Ce qu'il déplore, d'ailleurs. Il déplore, il ne se prive pas de le dire, la passivité des ouvriers. Il les exalte, mais par ailleurs, il les rappelle à l'ordre. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que le capitalisme serait la seule cause de la guerre? Est-ce que lors de la guerre de Troie, ça aurait été le capitalisme? Or, dans le discours à la jeunesse, il y a une page magnifique de Jaurès décrivant le saccage du palais de Priam. Et il n'arrête pas de mentionner d'autres causes de la guerre. Il y a des causes économiques, mais il y en a bien d'autres. Il y a l'inertie ou l'embrigadement des masses. Il ne met pas les masses hors de cause. Il y a la jalousie, les haines, les préjugés de race, les rivalités de nations et de races. Il parle de racines de haine, de jalousie. Et il ajoute que les rivalités économiques s'ajoutent aux intrigues gouvernementales et aux préjugés de race. Donc, il met en cause les masses, mais il met en cause les gouvernants. D'ailleurs, si la seule cause de la guerre de 14, c'était les causes économiques, hein, pourquoi Jaurès aurait passé l'après-midi du 31 juillet avec une délégation du Parti Socialiste à aller au ministère des Affaires étrangères, interpeller le ministre? Il n'est pas reçu par le ministre, mais par son secrétaire d'État, Abel Ferry, qui est le neveu de Grand Ferry. Et voilà son apostrophe. Je vous jure que si dans de pareilles conditions, vous nous conduisez à la guerre, nous vous dresserons, nous nous dresserons, nous crierons la vérité au peuple. Vous êtes les victimes d'Izvolsky, l'ambassadeur russe, et d'une intrigue russe. Nous allons vous dénoncer, ministre à la tête légère, dussions-nous être fusillés. Mais tout est déjà en marche. Lorsque la délégation se retire, le secrétaire d'État Abel Ferry n'ose pas le dire à Jaurès lui-même, le dit à un des membres de la délégation, Bedous, député de Toulouse, lui dit, bah, écoutez, c'est fini, les choses sont déjà en marche. Alors, voilà une citation qui illustre la première idée que j'ai lancée, c'est-à-dire que la guerre internationale est la conséquence des luttes de classe, des intérêts divers qui s'opposent, qui se heurtent dans chaque pays. Mais voici l'inverse. Le revers de la médaille. Si l'on veut réaliser le socialisme, il faut aussi lutter pour la paix internationale. La paix aujourd'hui est la condition du développement de la démocratie, du socialisme et de la classe ouvrière. Comment et pourquoi, vous l'avez à la seconde citation. Aussi, travailler au désarmement universel, c'est aider à la victoire du socialisme, c'est aider aussi à l'avènement d'un régime de justice qui libérera les nations soumises au régime de la conquête, comme les individus soumis au régime du salariat. C'est-à-dire, s'il y a un processus de paix qui s'enclenche au niveau international, du moins au niveau européen, et c'est le sujet à l'époque, ça permettra de diminuer les budgets de guerre, la course aux armements, et d'affecter ces sommes-là à la santé, à l'éducation, etc. Alors, j'ai trouvé une citation dans les débats de l'International Socialiste National d'une stupidité qui m'a laissé incrédule. Gade, qui s'écrit, le prolétariat est souvent plus malheureux à l'usine que sur les champs de bataille. Il faut le faire. Bon. Alors, bon, il y a du crétinisme partout. La preuve. Et Jaurès lui a déjà répondu à l'avance. Quel rapport y a-t-il entre la lutte des partis et même des classes dans une démocratie et les conflits armés de nations? Pour que l'on puisse les comparer, il faudrait admettre que les conflits entre nations aient pour but d'assurer le progrès politique et social, d'accroître les moyens de développement humain. Ça, ce sont les combats à l'intérieur. Mais évidemment, entre nations, il ne s'agit pas d'augmenter le progrès politique et social ou d'accroître les moyens de développement humain. Alors, voilà. Ce n'est pas moi qui le fais dire à Joël. Déjà, la démocratie, c'est la paix à l'intérieur. Par la démocratie, par le suffrage universel, les conflits politiques et sociaux en chaque nation sont soustraits de plus en plus aux décisions de la force. Les guerres des classes dans les démocraties, ou la guerre, pardonnez-moi une fois, prend de plus en plus la forme pacifique de la loi des majorités. Toute grande action démocratique est une transaction. Et la société future ne consistera pas simplement au renversement d'une classe par l'autre et vice-versa. La nouvelle société devra laisser place à tout le monde, avec des concessions réciproques, du côté ouvrier comme du côté bourgeois. Toutes les énergies auront leur garantie, leur part d'espace et de rayonnement dans la société progressivement transformée. Alors, c'est là, mais ce n'est pas ce grand terme. Le socialisme, c'est le désarmement intérieur aussi bien que le désarmement international. Alors, il est évidemment contre une révolution qui se produirait par la violence. Donc il se démarque nettement du marxisme catastrophique, c'est-à-dire celui qui guette un conflit, une guerre, pour, à l'occasion de ce conflit, de cette guerre, s'emparer du pouvoir. Bon, comme ça se fait en 1917. Ce n'est pas de la guerre que nous attendons, soit la justice sociale, soit le redressement des iniquités commises contre les nations. Et voilà l'avertissement qu'il donne. Je crois peu probable le recours à la force révolutionnaire. Je pense que les démocraties pourront évoluer sans violence et selon leurs propres lois vers l'organisation socialiste. Mais si le prolétariat se soulevait, s'il hâtait par la violence sa définitive émancipation, s'il brisait par la vigueur de son bras la propriété oligarchique qui pèse si lourdement sur lui, il y aurait sans doute bien des convulsions déplorables, bien d'inutiles et détestables souffrances que le devoir des partis prévoyants et de tous les hommes vraiment humains est de détourner l'humanité par une politique de sage et vigoureuse évolution. J'attire votre attention sur l'expression qui revient souvent chez Jaurès, les hommes vraiment humains, ou les hommes humains. Tous les hommes ne sont pas humains. Il y a aussi, dit-il, une humanité bestiale. Je reviens à mes propos un peu du début, dans cette dernière partie. Je disais que chez Jaurès, il y avait toujours un horizon métaphysique, religieux, et la paix n'est pas pour lui une question d'opportunité, de circonstances, de politique politicienne. Il y a chez Jaurès toute une prophétie de la paix. La paix, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le destin de l'humanité. Si l'humanité arrive à se débarrasser de la malédiction qui pèse sur elle, c'est-à-dire la violence, c'est-à-dire la guerre. Et ça, c'est constant chez Jaurès. Mais il n'est pas toujours optimiste. Il doute que l'humanité puisse échapper à ces guerres, à ces violences. S'il est vrai que les nations sont condamnées à jamais à faire œuvre de mort pour se défendre, s'il est vrai que jamais la solidarité humaine ne prévaudra sur le désordre et la violence des appétits, l'humanité n'est plus qu'une tentative manquée. Elle reste enfoncée dans la bestialité primitive, dans l'état de nature, et elle semble n'avoir créé et organisé lentement les nations que pour faire éclater, dans le choc sanglant de ces vastes groupements, sa brutalité incurable et sa déraison définitive. Ce qui ne l'empêche pas, donc, de se faire le prophète de la paix, mais bon, le prophète qui ne reste pas dans sa tour d'ivoire. Je crois qu'il est possible, dès maintenant, d'introduire dans le monde, âpre, défiant ou tourmenté, des garanties de paix. Alors, cette idée revient, quoi, que c'est une fatalité qui pèse sur l'humanité, et dont il sera difficile de se débarrasser. Discours à la jeunesse, hein. Mais d'abord et avant tout, il faut rompre le cercle de fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine, où les revendications, même justes, provoquent des représailles qui se flattent de l'être, où la guerre tourne après la guerre, en un mouvement sans issue et sans fin, où le droit à la violence, sous la même livrée sanglante, ne se discerne presque plus l'un de l'autre, et où l'humanité déchirée pleure de la victoire de la justice presque autant que de sa défaite. On pourrait faire des commentaires. Surtout, qu'on ne nous accuse point d'abaisser et d'énerver le courage. L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. Je l'ai vu gravé sur le monument aux morts de Nayout. Alors voilà les conseils du mot d'ordre de Jaurès en matière de politique internationale. J'ai compté, j'espérais qu'il y en avait 10, mais il n'y a que 9. Mais bon, mais voilà, on n'a pas trop le temps de les commenter. Je ne veux pas être trop long. Et je voudrais vous laisser la parole. Bon, il vous demande de l'arbitrage. Une diplomatie ouverte et contrôlée, qui ne se fasse pas dans l'ombre et le secret des cabinets ministériels. Les ententes entre peuples, etc., etc. Le peuple lui-même organisé à milice. Et je ne peux trouver meilleure affirmation du rôle central de la paix chez Jaurès que celle-là. Je le resitue brièvement. Nous sommes en 1911. À l'invitation des socialistes sud-américains, Jaurès se rend en Amérique du Sud. Il part de Paris, il passe par le Pays Basque, par par le Portugal, ils embarquent de Lisbonne, ils débarquent au Brésil, conférence au Brésil, puis conférence en Uruguay, puis ils finissent en Argentine, à Buenos Aires. Alors, pour nous, Occitans, c'est très important, parce que c'est au cours de cette expatriation, en quelque sorte, qui prend conscience de la valeur de l'Occitan par rapport aux Portugais de Lisbonne ou du Brésil et à l'Espagnol de l'Uruguay ou de Buenos Aires. Et c'est là qu'il envoie ses articles à la Dépêche et aux instituteurs sur la nécessité d'enseigner l'Occitan, le basque et le breton à l'école publique et pas au titre de simple sensibilisation. Par une méthode comparée, qu'on appellerait aujourd'hui le bilinguisme. Mais 1911, c'est le coup d'Agadir, la canonnière allemande qui mouille en face d'Agadir, et Jaurès passe par les Açores, c'est tout près, la guerre menace vraiment. Et il fait plusieurs conférences sur ce sujet, la paix et la guerre en Europe. À tel point qu'il trouve nécessaire de s'en excuser. Je reviens peut-être souvent sur ce thème, mais c'est qu'ainsi, comme dans les temples antiques, où toutes les lignes, tous les passages et tous les couloirs convergent vers l'autel de la divinité centrale, mes idées se dirigent toujours vers la divinité qui est mon idéal. Et ma divinité, c'est la paix humaine. Et c'est par elle, et pour elle, que je lance toujours un cri d'espérance et de douleur. Alors, le mois de juillet a été le plus occupé, le plus dur, pour Jaurès qui s'est battu un peu sur tous les fronts, plusieurs discours, sans compter les articles, réunion du bureau de l'international de Bruxelles, discours de Vez, etc. Et au début de juillet, il fait un discours aux arsenaux de Rochefort. Ça m'a semblé intéressant, d'autant plus que je ne l'ai jamais vu citer, nulle part. Vous comprenez pourquoi. Nous sommes dans une Europe qui se prétend civilisée. Voilà 20 siècles qu'est mort sur le gibet de Calvaire l'homme dont des milliers de chrétiens ont fait leur Dieu. Et ils disaient, paix aux hommes de bonne volonté. Et comme lui, nous disons, paix entre les nations, et que les hommes règlent leurs différends par la raison et par l'arbitrage, au lieu de se déchirer les entrailles. Voilà, je reviens à l'image du pré. Bon, avec une phrase, j'en connais au moins deux autres, dans laquelle Jaurès exprime le pressentiment de ce qui sera sa fin. C'est en 1895, dans Carmaux, dans les rues de Carmaux, où il est assailli physiquement par la troupe. Il y a un mot d'ordre de coincer dans une porte, dans une inconvénient de porte, et de faire un pot. Il est sauvé par un gendarme de Blaye-les-Mines qui a entendu le mot d'ordre et qui s'en prend à ses collègues et leur dit « Si vous touchez Jaurès, je vous fais la peau. » Le préfet est évidemment du côté de la direction des mines et pas de celui de Jaurès. Et à la tribune, Jaurès se fait l'écho des pressions et des risques qui le menacent. Un jour viendra peut-être, nous serons abattus précisément par un de ceux que nous voulions affranchir. Qu'importe, l'essentiel est que nous fassions œuvre d'homme avant d'être couchés à jamais dans le silence et dans la nuit. Et tel que tel, le meu compte est Jacques Abad.
Voilà même.
bon historien pour faire la cueillette de morceaux véritables et pour les remettre en ordre pour nous montrer ce qui est vraiment la vérité par rapport à aux images d'Épinal un petit peu faussées que l'on peut avoir. Donc un grand merci à Jean-Louis Blanc pour cette cueillette fabuleuse. Et maintenant, la parole est à vous, puisque pendant quelques instants, alors on ne va pas trop abuser, mais si on pouvait prendre une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, pour que Jordi puisse répondre à vos questions. Qui se lance en premier? Nous avons deux micros, et on va pouvoir les faire circuler.
C'est au sens politique?
Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne fait jamais de politique ici. À la pub en vol.
Oui, bonsoir. Je me présente, Christian Donne, militant CGT, métallurgiste et adhérent au Parti communiste français. Donc j'ai vu sur le journal votre conférence qui m'a paru intéressante, c'est pour ça que je suis venu. Alors, c'est fait que pour connaître Jaurès, c'est quand même un sacré bonhomme, hein, avec toute sa philosophie, écrivain, journaliste, enfin bref, c'est très important. Il a écrit une phrase, la grande paix humaine est possible. Vraiment, il était très optimiste. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a 30 guerres en permanence dans le monde, et plus de 400 conflits. Alors, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ensuite, on est une société de 7 milliards d'habitants et on nous promet une société de 9 milliards. Je pense qu'à 9 milliards, ce ne sera pas 34 guerres, ce sera peut-être le double, malheureusement. Alors, ma question, c'est ce que je pose actuellement. Quoi. Moi, je suis pour l'imitation des naissances et voilà. Alors, on n'arrive pas à nourrir la population. Disons, 1 milliard de gens meurent de faim, 1,5 milliard de gens n'ont pas d'eau potable, 4 milliards de gens ne consultent jamais un pharmacien et un docteur, il n'y a que dans les pays riches, on est tous les jours dans les pharmacies. Bon alors, voilà.
Merci, mais je crois que nous sommes un petit peu de cas,
mais je vous remercie, je partage vos inquiétudes et vos craintes, hein. Mais par déontologie, par méthode, je me refuse de faire des allusions, des commentaires sur la réalité politique actuelle. Il y en a suffisamment qui s'en chargent. Hein, depuis le front national jusqu'au front populaire, jusqu'au front de gauche, en passant par tout l'éventail de la vie politique, Sarkozy et d'autres. Donc moi je me refuse à cet exercice. Par contre, si j'ai passé autant de temps à travailler sur Jaurès, c'est que Jaurès m'enrichit, Jaurès m'éclaire. Hein. Mais je veux me limiter à restituer Jaurès dans sa vérité, dans son époque, avec ses idées, et à chacun d'en tirer les leçons, il y en a à tirer en fonction de la réalité actuelle.
Merci Jean-Louis, c'est tout à fait ça. Nous ne comprenons pas le sujet, nous sommes là sur le sujet de Jaurès, et voilà, c'est ça le point important.
Comment un visionnaire comme Jaurès n'a pas été plus écouté que ça?
Non, pardon, je ne vois pas.
Voilà. Comment un visionnaire comme Jaurès, qui détenait quand même pas mal de vérité pour son époque, n'a pas été plus écouté que ça? Et est-ce que c'est là, est-ce que c'est l'époque justement qui voulait qu'on ne l'écoute plus, quoi, qu'on ne l'écoutait pas?
Il y avait un début de réponse dans la conférence, un début de réponse, mais il faudrait développer ça. Bon, c'est-à-dire, les campagnes guerrières pour la récupération de la Lorraine, tout l'impérialisme français. N'oubliez pas qu'on est en pleine période coloniale. Le Maroc, il est à conquérir. Ça compléterait d'ailleurs les possessions françaises par rapport à l'Algérie. Je trouve l'argument que ça sécuriserait la frontière algéro-marocaine. Et il y a toute l'Afrique noire. Donc, il y a des forces en présence qui ne sont pas pour la paix. Au niveau politique, il y a les nationalistes et les conservateurs. Quelqu'un comme Philippe Barrès, par exemple, et bien d'autres. Même l'Église, à quelques exceptions près, tient un discours guerrier. Et pas du tout pacifique. Jaurès ne fait aucune confiance à l'Église de l'époque pour restaurer la paix. La seule force de paix qu'il voit, même si la vérité va le démentir, c'est le prolétariat, c'est les ouvriers. C'est les ouvriers, mais pas les ouvriers seuls, parce qu'il n'a jamais la vision classiste de Marx, se limitant aux ouvriers d'usine. Il y a les ouvriers, il y a les républicains progressistes, et ce qu'il appelle tous les hommes vraiment humains, qui doivent se mobiliser contre la paix. On vote dans l'international socialiste, au début du mois de juillet, une motion pour la grève internationale contre la guerre. Et elle n'aura jamais lieu. Ces prédispositions bellicistes ne sont pas limitées à la France. Dans l'Empire allemand, les crédits sont augmentés, le nombre de soldats sous les drapeaux augmente, quand la guerre va éclater, la social-démocratie allemande que défendait Jaurès, à laquelle il avait confiance, va voter les crédits de guerre. Et du côté français, c'est d'ailleurs pareil, quoi. Il n'y a pas eu de résistance socialiste ouvrière organisée contre la guerre. Non. Donc Jaurès est tout à fait à contre-courant, quoi. C'est ce qui est dramatique. Alors, mais il y a des choses intéressantes à voir, à lire. Par exemple, Guègue devient ministre en 1915, Marcel Samba, un autre socialiste important, aussi. Le 4 août 1914, pour les obsèques de Jaurès à Paris, il y a un discours de Léon Jouhaud, secrétaire général de la CGT. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle à l'union sacrée contre l'Allemagne. Mais il ne fait pas seulement ça, il le fait à partir de Jaurès, en retournant en sa faveur les idées de Jaurès, ce qui est assez monstrueux. Et vous pouvez le trouver, ça éclaire les yeux, au fond d'un petit que sais-je qui s'appelle La rhétorique, j'y suis tombé un peu par hasard, dans lequel l'auteur explique les principales règles de rhétorique et en fait analyse trois ou quatre discours. Et là, il y a l'analyse du discours de Jouhaud. Ça vous sidère la manière dont il peut appeler à la guerre au nom de Jaurès. Mais on ne recule devant rien, quoi. Et finalement, l'échec de Jaurès, c'est que l'idée nationale, le nationalisme, a été plus fort que l'esprit de classe, en Allemagne, en France aussi.
Il y a une autre question ici.
Merci pour votre présentation et je voudrais avoir une précision. Dans ce que disait Jaurès concernant la société, enfin, oui, dans laquelle il vivait, c'était effectivement, vous l'avez précisé, pas contre le capitalisme, mais contre une société qui était une société, je ne me rappelle plus le terme, menant à la guerre, enfin un système menant à la guerre. Est-ce que Jaurès a été plus précis en ce qui concerne l'influence des, j'allais dire, des grosses sociétés, en particulier tout ce qui est sidérurgie, tout ce qui est grosse entreprise, puissante justement pour améliorer leur rente, augmenter leur rente, poussant à la guerre. Est-ce que j'aurais ça fait allusion à ça dans ces différents discours?
Je n'ai pas trouvé qu'il le fasse, qu'il s'élève spécialement contre les industries d'armement. Mais, bon, il s'élève contre plusieurs sociétés capitalistes, contre plusieurs scandales, par exemple le scandale de Panama, et bien d'autres, contre Casimir Perrier qui devient président de la République et qui a trempé dans je ne sais combien d'affaires. Il dénonce clairement les abus du capitalisme, mais pour répondre à votre question, je n'ai pas trouvé qu'il le fasse spécialement sous l'angle de la guerre, de la préparation à la guerre.
Il y a notre... Monsieur Lagarde. Je voulais savoir quelle attitude a eu le peuple français à l'égard de l'assassin de Jaurès.
Quelle attitude a eu le peuple français à l'égard de Wilhelm?
De l'assassin de Jaurès. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, l'assassin de Jaurès c'est Raoul Wilhelm. Bon, qui a été arrêté sur place, hein, par un gendarme d'ailleurs de chez nous. Et il n'a pas voulu parler tout de suite, hein, mais je le signale par rapport à la conférence sur la paix, le seul motif qu'il a donné, c'était que Jaurès était opposé à la loi des trois armes. Bon, il y a eu plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est un acte individuel, est-ce que c'est le résultat d'un complot? Il y a eu par exemple l'hypothèse russe, que ça aurait été organisé par la Russie. La Russie tenait à ce que la France entre en guerre. Mais on n'a jamais pu le prouver. Il y a eu l'hypothèse aussi d'un complot d'extrême droite contre Jaurès. Là non plus, on n'a pas pu le prouver. Donc il semble que Raoul Wilhelm ait agi de sa propre initiative. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il était abonné à l'Action française, à des journaux quand même d'extrême droite. Il baignait dans le climat de dénonciation, de haine vis-à-vis de Jaurès. Et pas seulement dans des textes. Les caricatures de l'époque sont éloquentes. On représente Jaurès avec un casque à poil. Il est l'agent de Guillaume II, l'agent du syndicat, des juifs, etc., etc. Il y a toute une haine qui se déverse contre lui. Il reçoit fréquemment des menaces de mort. Et il y a des personnalités remarquables comme Léon Daudet, le fils de notre Alphonse, qui appelle au meurtre contre Jaurès, et pas de manière allusive. Maurras, autre fait libre, c'est toutes ses frères, c'est toutes ses amis. Et il y a le très chrétien Péguy, Charles Péguy, hein, qui dit, si la guerre est déclarée, la première chose à faire, c'est Jaurès, son poteau, Jaurès à la guillotine, en toutes lettres. Et Péguy est célébré cette année, hein, il est célébré. Il est mort quelques jours, quelques mois après, au combat. Bon. Vilaine n'a pas été jugé tout de suite. Il ne fallait pas casser l'unité nationale, le lion sacré. Donc il est resté en cabane pendant toute la guerre. On l'a ressorti en 1919. Il y a eu le procès, j'allais dire de Jaurès, de Raoul Vilaine, mais en fait ça a été le procès de Jaurès. Puisque tous les débats, par la faute d'ailleurs aussi un peu des avocats de Jaurès qui se sont employés à montrer que Jaurès n'était pas un antipatriote, etc., etc. Donc, les débats n'ont jamais porté sur Vilaine, mais sur Jaurès. Et Jaurès a été acquitté.
Vilaine
a été acquitté au nom du peuple français et sa veuve condamnée aux dépens. C'est-à-dire à payer les frais du procès. C'est Madame Jaurès qui a dû payer. Et alors évidemment, il y a eu des protestations et des défilés. Il y a eu des défilés de protestations. Mais ça n'est resté là, quoi.
Réhabilité.
Pardon ?
Vilaine réhabilité.
Oh. Bah, oui, en quelque sorte, puisqu'il est sorti libre. Hein. Il est sorti libre. Hein. Bon, ça ne lui a pas forcément porté chance parce que il a galéré un peu partout, parce que quand même, l'étiquette le marquait. Et les banlieues étaient déjà à la mode, il y avait quelques marginaux, artistes, anticonformistes qui y allaient, ce n'était pas encore le tourisme de masse. Hein. Et il est allé à Ibis, hein, et il achetait même une maison, il était là. Et en 36 ou 37, lors de la reconquête d'Ibis par les républicains, hein, c'était les franquistes qui s'en étaient emparés, Vilaine a été tué par les républicains sur la plage, sur une plage d'Ibis. Alors, je ne crois pas qu'il l'ait reconnu, parce qu'il fallait connaître l'histoire française, Jaurès, Vilaine, ce qui n'était pas vraiment à la portée de du premier guerrier républicain venu. Mais, bon, Albissa le considérait comme un original, et dans sa propriété, là, il avait fait bâtir le rang de croix, et c'est sans doute ça qu'il a perdu. Alors, bon, il y a eu une sorte de réhabilitation posthume entre parenthèse, réhabilitation, certains ont dit récupération, ça a été en 1924, hein, sur le front de gauche. Hein. 1923, il y a eu l'érection de sa statue à Carmont, et 1924, le cartel de gauche arrive au pouvoir, et à l'initiative des radicaux, auxquels se joignent les socialistes, il y a l'opération panthéonisation de Jaurès, opération médiatique, un grand catafalque aussi grand que cette salle, porté par une trentaine de mineurs venus de Carmaux, le casque sur la tête, et retransmis à la radio. Et là, ce sont les communistes qui crient à la récupération. Et l'éditorial de l'Humanité dit « Seconde mort de Jaurès, second assassinat de Jaurès » et eux, ils défilent, mais à part, et contre la panthéonisation. Et à Albi, il y a eu quand même quelques protestations contre cette opération. Et Jaurès lui-même avait dit, lors d'une promenade, hein, avec, je crois que c'était avec Aristide Briand, il passe devant le Panthéon, et Jaurès dit à Aristide Briand, si je m'imaginais qu'un jour je sois enterré là-dedans, le reste de ma vie en serait gâché. Et il aurait préféré un petit cimetière tranquille de campagne. Mais il ajoutait, bon, il n'y a aucune chance.
Chers amis, nous approchons de 10 heures, et peut-être vous pourriez.
voudrions remercier une nouvelle fois Jean-Louis Blanc en l'applaudissant.